À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un Québécois, le père Eugène Prévost, qui a toujours souhaité devenir un saint dès son jeune âge, qui l'a dit, redit, durant toute sa vie. Il a fondé dans ce but d'ailleurs la fraternité sacerdotale et les oblates de Béthanie afin de sanctifier ses frères prêtres qu'il aimait beaucoup et de voir aux besoins aussi des prêtres qui avaient besoin d'aide. Il est mort en 1946. Mort en 1946, on a donc célébré il y a quelques années à peine le 50e anniversaire de son décès. Et à cette occasion, l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Laurent Noël, a déclaré que pour le père Prévost, Jésus n'est pas seulement un personnage important de l'histoire, qui nous reporte à 2000 ans en arrière. C'est Dieu vivant et agissant aujourd'hui. Il est là, pour le père Prévost, dans l'Eucharistie. Il est là, présent dans le sacerdoce des prêtres qui continue la mission de Jésus, dit Mgr Laurent Noël. Et écoutez bien ce que Mgr Noël ajoute. C'est très important parce que ça, c'est le cœur de cette émission d'aujourd'hui, en hommage au père Eugène Prévost. Mgr Noël déclare, « Mais la tâche des prêtres est exigeante. » Le père Prévost a constaté les difficultés qu'il rencontre. Oui, il connaît leurs souffrances, leur solitude, les échecs d'un certain nombre, l'incompréhension dont ils sont l'objet. Il voudrait les soutenir dans leur marche à la suite de Jésus. Je suis dévoré du désir de les voir saints, disait-il. Alors ils font deux communautés, la fraternité sacerdotale et les oblates de Béthanie, pour le service des prêtres dans leurs besoins matériels et spirituels. Et Mgr Noël ajoute, vous connaissez comme moi tout ce qui a été réalisé dans l'Église grâce aux intuitions puis au dévouement du père Prévost et grâce aussi aux initiatives privées prises par les deux communautés qu'il a fondées. Aussi, est-ce un devoir pour nous aujourd'hui de remercier le Seigneur pour les dons qu'il a déployés dans l'âme du père Prévost et pour le bien qu'il lui a permis d'accomplir par lui-même et par les membres de ces deux communautés. Alors nous allons voir ce qui s'est passé au juste. On a fait, évidemment, des portraits peint ou pris des photos du père Prévost, c'est une belle tête d'homme bon. On la retrouve sur la couverture d'un ouvrage considérable qui vient de paraître sous la plume d'un des plus grands historiens du Québec, Jean Hamelin. Jean Hamelin, je le signale pour ceux qui le connaîtraient moins, qui est non seulement un historien de renom, mais il a été professeur émérite à l'Université Laval. Et il a occupé toutes sortes de postes, dont celui de directeur du département d'histoire à l'Université Laval. Il a été directeur général adjoint du fameux Dictionnaire biographique du Canada, de 1973 jusqu'à son décès survenu le 15 mai 1998. C'est fantastique tout ce qu'il a publié. Il a publié en particulier, je le note parce que ça m'a été offert par Jean Larose, l'histoire du catholicisme québécois, dont il a été, d'ailleurs, l'un des auteurs. Et évidemment qu'il a reçu l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec, c'est normal. Quand on est un homme d'un tel dévouement, et sur son livre, il y a cette belle photo d'un tableau du père Eugène Prévost. Les gens qui l'ont connu l'ont toujours aimé. Que ce soit en son enfance ou à son adolescence, il est toujours apparu, à ce moment-là, plutôt espiègle et dissipé, que ce soit l'âge mûr ou au sommet de sa longue vie, écrit-on, il semble ne présenter rien que de sympathique et d'abordable, d'une autre façon, dans la maturité. Ceux qui l'ont entendu dans des conférences qu'il a données à différents endroits au Québec, reconnaissent bien cet homme. Dans le portrait qui a été brossé, écrit par le père Allard au lendemain de son décès, en 1946. C'est quelques lignes. De taille un peu en bas de la moyenne, assez replet, avec une forte tête blanche, au front haut et large, une figure au teint rosé, belle, sereine, animée par des yeux de bienveillance et un sourire gracieux. Il s'avançait, très simple, en promenant partout des regards doux et sûrs, ceux d'un homme qui aime et qui sent qu'on l'aime. C'est qu'il était séduit par Jésus. Vous direz, séduit par Jésus, oui. Saisi par l'amour, quoi, dès son adolescence. Il s'était donné comme programme, d'ailleurs, et je lis, tout pour votre plus grande gloire et votre pur amour. J'ai senti, alors qu'il était adolescent, c'est ce qu'il écrit, que Jésus m'aimait. Ô Jésus, ô Marie, que j'ai tardé à vous aimer. Dès ce jour, je me donne à vous pour toujours. Pour Jésus, pour son amour et sa gloire, il faut à tout prix devenir un saint. Et c'était son projet dès l'âge de 17 ans. Il n'y a qu'un secret pour réaliser ce rêve de sainteté. C'est Monseigneur Christiani, auteur de nombreux ouvrages, qui a écrit, pas un ouvrage, mais 32 pages sur le Père Prévost, une étude. Il affirmait, le secret de la sainteté, il n'y en a qu'un. Aimer. Aimer, c'est-à-dire se donner à Dieu, laisser agir Dieu, ouvrir son âme toute grande à l'amour divin. Et telle a été, et telle sera, la vie d'Eugène Prévost. Et on soupçonne maintenant que cette vie a été un vrai drame et que l'amour en a été le nœud et le dévouement, comme l'écrit si bien le père, un père dominicain, Gabriel Perra. Le père Eugène Prévost est né le 24 août 1860 à Saint-Jérôme, comme on disait à l'époque, Saint-Jérôme de Terrebonne. C'était à l'époque à la lisière des forêts qui couvrent les premières pentes de la chaîne des Laurentides dans notre pays du Québec. Et celui qui devait devenir le fondateur de deux congrégations, je répète, la Fraternité sacerdotale et les Oblates de Béthanie. Les Oblates de Béthanie avaient un costume semblable à celui des bénédictines, c'est-à-dire vraiment un costume de monial, un voile, une guimpe blanche, un scapulaire blanc sur une tunique noire. Les bénédictines sont toutes en noir. Eh bien, il appartenait à une famille de 15 enfants. Son père était médecin. Et d'une charité légendaire, c'est une famille à l'aise, d'ailleurs. Les Prévost étaient très connus dans la région de Saint-Jérôme. L'une des sœurs d'Eugène Prévost va s'associer à son frère pour la fondation des Oblates. Puis, sur des conseils plus ou moins intempestifs, malheureusement, elle va l'abandonner. Ce sera dur pour lui. C'est une épreuve. C'est une des innombrables épreuves du père Eugène Prévost. Car il en connaîtra bien d'autres. Il a été préparé par sa formation sacerdotale et religieuse, heureusement. Il commence cette formation au séminaire de philosophie de Montréal. C'est derrière le grand séminaire sur le chemin de la Côte-des-Neiges, là. Avec un sulpicien que beaucoup de gens d'un certain âge, nous connaissons son nom, c'est M. Lecoq qui était très réputé. C'est auprès de lui, justement, qu'il prend cette ferveur pour l'Eucharistie, qui rend le même son, d'ailleurs, que cette ferveur qu'avait Jean-Jacques Ollier, dont je vous ai déjà parlé, le fondateur des Sulpiciens et fondateur, d'une certaine façon, de Montréal, de Ville-Marie. Dans ses écrits et dans sa vie, il écrit « Le Saint-Sacrement sera le moule où j'irai me fondre pour recevoir l'empreinte, la ressemblance et la force de Jésus. Ça peut sembler compliqué, ce petit texte, mais c'est pas, quand on l'écoute comme il faut, c'est superbe. Le Saint-Sacrement, imaginez-vous à genoux devant le Saint-Sacrement, sera le moule où j'irai me fondre, comme une statue, quoi, pour recevoir l'empreinte, la ressemblance et la force de Jésus. Il a une fin extraordinaire de l'Eucharistie. Et ce monsieur Lecoq, sulpicien, qui l'a constaté, trouve le moyen de lui procurer la communion quotidienne à ce jeune Eugène Prévost. Dans ce temps-là, on communiait pas tous les jours. Alors il le prend comme servant de messe, comme ça, personne va s'apercevoir que Eugène Prévost, séminariste, va recevoir tous les jours l'Eucharistie. C'est un fait inouï à l'époque où le futur fondateur commence sa formation sacerdotale. Vous savez que c'est le pape Pie X, au début de ce siècle, du 20e siècle, qui a rétabli la communion fréquente. Frappé par une grande ferveur à l'égard de l'Eucharistie, ce monsieur Lecoq oriente le petit Eugène Prévost, vers la congrégation des Pères du Très-Saint-Sacrement, ceux qui ont cette belle église près du métro Mont-Royal. Et ça avait été fondé récemment par Saint Pierre, Julien et Aymar, dont j'ai rediffusé une émission que j'avais faite sur lui il y a un peu plus d'un mois. C'est le père Aymar qui a fondé la congrégation des Pères du Très-Saint-Sacrement, et le jeune séminariste exulte de se rendre là. Il part pour la Belgique, où il se trouve le noviciat. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de noviciat ici. Mais là, soumis à la règle commune, il ne pourra communier que 3 fois par semaine, et lui en coûte de se voir privé de l'Eucharistie. Il a 21 ans, il a soif. Son âme est enthousiaste. Et rien d'étonnant, s'il se livre à des outrances qui sont assez typiques de l'époque et qui existent, paraît-il, encore un peu, comme d'écrire 21 fois le nom de Jésus avec son sang. Quand j'étais jeune, on faisait ça, on se coupait le poignet, hein, puis on écrivait avec son sang. C'était des coutumes qui existaient encore, hein, dans les années 30. Et des outrances comme celle-là, ben c'est le fruit passager, mais touchant, d'une attirance irrésistible vers la présence réelle. Et Eugène Prévost trouve le moyen de passer le plus grand nombre d'heures de la journée devant Saint-Sacrement. Comment il fait? Bien, il s'est aménagé une cachette, comme on dit, près de l'orgue. Puis là, il se blottit près de l'orgue, puis il y travaille. Il y contemple. Il prie. Et des paroles divines le mettent dans un état de paix. Ça le met aussi dans un état de certitude et de vaillance, de courage. C'est un contemplatif, Eugène Prévost. C'est un mystique aussi. Mais ce n'est pas un quiétiste. Il est actif. Il est soucieux d'apostolat. Et c'est pour ça qu'après avoir passé 19 ans dans la congrégation des Pères du Très-Saint-Sacrement, sur des conseils très autorisés, il va orienter autrement sa vie. Donc le père Eugène Prévost, né à Saint-Jérôme, je vous le rappelle, qui est allé en Europe et qui est entré dans la congrégation des Pères du Très-Saint-Sacrement, a puisé là un culte profond de la présence réelle dans le Très-Saint-Sacrement. Autrefois, il faut vous dire, les Pères du Très-Saint-Sacrement, dans leur église ici, exposaient le Très-Saint-Sacrement dans un immense ostensoir qui trônait en haut du rétable, là où il y a un Christ en gloire maintenant. Et c'était très, très, très impressionnant, cet immense ostensoir. Puis il y avait toujours, sur 2 prie-dieux, 2 Pères du Très-Saint-Sacrement. Ils apportaient la soutane noire et un surplis blanc. Et ils étaient à genoux ou assis en adoration, en méditation devant Saint-Sacrement, continuellement. Il y en avait toujours. Cette dévotion extraordinaire à la présence réelle du Christ vivant dans la Sainte Hostie, a amené le père Prévost au culte, pourrait-on dire, du prêtre. D'ailleurs, il emprunte ça au bienheureux, au Saint-Père Julien Aymard, fondateur des Pères du Très-Saint-Sacrement. Il quitte donc les Pères du Très-Saint-Sacrement pour orienter autrement sa vie, comme je vous ai dit. Après l'âme de Marie, rien n'est beau comme l'âme du prêtre, écrit-il. Jésus en petit, l'infini sous les dehors de la créature. Il y a deux grands sacrements qui s'appellent mutuellement l'Eucharistie et le sacerdoce. Alors il voudrait fonder des œuvres sacerdotales pour le prêtre, déjà prêtre, le prêtre submergé. Oui, oublions jamais ça, le prêtre submergé par ses charges. Le prêtre vieilli ou prématurément fatigué. Le prêtre qui, en tout état de cause, a besoin d'être spirituellement et matériellement assisté. Il remarque que toutes les classes de la société, les enfants, les vieillards, les pauvres, les malades, les orphelins, ils sont assistés par des congrégations religieuses spécialisées à leur service. Alors pourquoi pas les prêtres? Pour eux, il manque une congrégation. Et le temps est venu de la fonder. Alors le père Prévost soumet son projet au pape Léon XIII. À Rome, évidemment. Et le pape l'encourage fortement à l'exécuter. Et dès le 8 septembre 1901, le père Eugène Prévost peut établir à Paris la congrégation de la fraternité sacerdotale, donc on approche du 100e anniversaire de la fondation. Après quoi viendra celle des oblats de Béthanie. Le pape Pie X va apprécier au plus haut point le projet du père Prévost. C'est extraordinaire cette rencontre. Le père Eugène Prévost va s'ingénier à lui assurer les moyens de développer tout ce qu'il veut faire. Et je vous raconte comment il a rencontré le pape. La première parole de Pie X, écrit-il, me jeta bien un peu dans l'étonnement. Je venais chercher des lumières, des conseils, et le pape commença par me remercier. « Je vous remercie, dit-il, en répétant deux fois d'avoir entrepris votre œuvre sacerdotale et de tout ce que vous faites pour les prêtres. » Puis il développa sa pensée, me montrant combien était grande cette œuvre et son importance pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Et le pape poursuit en disant, « Sauver un prêtre, écoutez bien ça, c'est sauver 100 âmes, c'est sauver 1000 âmes, c'est sauver 10 000 âmes. » Et il appuyait sur les mots. Et le pape Pie X m'engagea à la continuer avec courage, me promettant que j'y trouverais de grandes consolations spirituelles. J'avais apporté une copie de ma supplique au pape Léon XIII, ainsi que l'original du rescrit « Je vous écrirai aussi quelque chose », dit Saint Pie X. Le cardinal lui donna ma nouvelle supplique, manuscrite, en le priant d'y ajouter quelques paroles d'encouragement. « Oui, oui », répondit Saint Pie X. Et il déposa le tout sur son bureau, en faisant un geste qui semblait dire « Je prendrai volontiers connaissance de ces documents ». Et la figure de Pie X est empreinte, dit-il, d'une grande bonté et d'une grande douceur. Ce sont, en somme, deux hommes d'une grande bonté et d'une grande douceur face à face. Il ajoute, le père Prévost, il est très simple et il me met facilement à l'aise. J'étais debout, mais j'aurais voulu me tenir humblement genouillé à ses pieds. Et là, écoutez bien, j'avais des adversaires, des ennemis, jusqu'à Rome. On a crié sur tous les tons que notre œuvre était impossible. On a même osé dire que Léon XIII avait pu se tromper. Dans tous les cas, qu'il y avait trop d'extraordinaire dans nos deux œuvres, parce qu'il y avait des phénomènes remarquables, et qu'il fallait se tenir sur ses gardes, que j'étais capable de rouler même le pape. Toujours des gens qui créent des embûches, hein, au sein. Vous avez remarqué ça dans l'histoire de l'Église? C'est étrange, hein? Et ça se suit, et voilà que le vicaire de Jésus-Christ me redit les mêmes paroles que son prédécesseur, me redonne la même mission. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans l'Esprit de Dieu, Ce que nous devons faire dans l'avenir, c'est de continuer sans défaillance ce que nous avons commencé. Il veut vraiment continuer. Il n'y a aucun doute dans son esprit. Il en ira de même pour le pape Benoît XV et pour le pape Pie XI. Sous le pontificat là, de Pie XI, après avoir bien connu la fraternité sacerdotale, le cardinal Verdier va donner un statut canonique à cette famille religieuse. Il va faire d'elle une congrégation de droit diocésain, puis ça va devenir une congrégation de droit pontifical. Mais de quel prix le père Prévost a dû payer ses faveurs? Ah! Son âme extrêmement sensible, son âme profondément vibrante, était faite pour goûter intensément la joie et pour souffrir profondément de la croix. D'ailleurs, il avait choisi un nom d'emprunt comme religieux, Marie-Eugène de la Croix, qu'il utilisait pour signer des quantités fantastiques d'écrits, de feuillets, de brochures et même d'ouvrages considérables. Il a été à la fois le protégé de deux papes et l'homme, à certaines heures, le plus suspecté. Il a été dénoncé, diffamé. Il a été calomnié auprès des plus hautes autorités de l'Église. À un moment donné, le souverain pontife se voit à plusieurs reprises obligé de lui imposer un visiteur apostolique, un visiteur qui vient de Rome pour examiner les choses. Et à chaque fois, le très révérend père Prévost sort de l'épreuve à son avantage, puis à celui aussi de ses deux familles religieuses. Sa manière brûlante, enthousiaste, voire prophétique, hein, d'écrire et de parler, le fait passer auprès de certains pour un illuminé. Ses entreprises financières inquiétaient ceux qui ne voyaient que les dépenses engagées. Pourquoi? Parce qu'on ne devinait pas les interventions providentielles. La providence était toujours là. Parfois, c'était des interventions prodigieuses qui couvraient les dépenses. Et on prédisait pour ses créations toutes les catastrophes. Et parfois, on s'en prenait à sa vie privée. Il ne s'en étonnait qu'à peine. Il s'en est jamais découragé, car il était attiré par le mystère de la Passion en même temps que par celui de l'Eucharistie et du sacerdoce. Et c'est comme ça qu'il s'est offert, ça peut nous surprendre aujourd'hui, il s'est offert dès 1892, par conséquent 9 ans avant la fondation de la fraternité sacerdotale, il s'est offert comme victime à notre Seigneur. Il a doublé cette offrande d'un vœu, et qu'est-il pour l'accomplissement des desseins de Jésus, pour la seule satisfaction de son bon plaisir, par un amour profond pour Jésus. Et chose étrange, il a été exaucé. Le corps, le cœur, l'âme, tout deviendra la proie de la souffrance. Étrange. Il disait, vous pouvez frapper sur moi, mais sauvez vos prêtres. Cette conception étrange que Dieu nous frappe, c'est une conception de l'époque qui, heureusement, n'existe, pour ainsi dire, plus aujourd'hui. Dieu nous aime. Mais on lit ces textes, mais on est touché par la bonté qui est là, sous-jacente, à ces textes un peu surprenants. Il est donc, le père Eugène Prévost, un homme de sacrifice, comme on l'entend à cette époque, où il s'offre comme victime. Mais petit à petit, il va vers l'amour de plus en plus grand. Puis dans celui-là, il prêche, il écrit avec une éloquence pénétrante, avec une abondance entraînante. C'est inlassable chez lui. C'est même inépuisable. Les accents du père Prévost étaient de feu. Sa parole coulait de source comme un torrent qu'il maîtrisait. On devinait d'où venait le jaillissement et parfois même la fougue. Et cependant, dans les conseils de direction du père Prévost, c'était la modération. C'était la discrétion. Je vous en cite un exemple. C'est très beau. C'est un Québécois, de Saint-Jérôme, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute au début. Le père Eugène Prévost, fondateur de la fraternité sacerdotale. Il nous faut façonner des saints, disait-il. Et pour cela, ramener toujours au renoncement et au sacrifice, mais à condition de le faire avec une grande bonté. Parlons surtout d'amour et moins de sacrifice, disait-il. Ne faisons pas sentir la main qui fait des incisions, pansons la blessure en l'ouvrant. Dirigeons dans la voie, moins en poussant qu'en attirant. Donnons à la perfection un aspect qui charme par sa beauté, plutôt qu'il ne repousse par sa dureté. Et sachons exiger beaucoup, mais sans en avoir l'air. Parlons des devoirs qui s'imposent, mais sans les revêtir d'âpreté. Ne fatiguons pas par des allusions trop fréquentes à ce qui manque encore, mais plutôt encourageons par le bien déjà fait et la course parcourue. Et surtout, prenons garde d'abattre et de décourager, en rappelant toujours les défauts et les lacunes, sous prétexte d'humilier puis de montrer la vérité. Non, il vaut infiniment mieux dilater l'âme et l'exciter à marcher de l'avant. Sans tant de retours et d'examens, il faut pas insister sur des retours à l'arrière, les examens trop, là, qui découragent. Souvenons-nous, dit-il, que nous devons faire des saints. Souvenons-nous que nous devons faire des saints et le devenir nous-mêmes. C'est là le travail de toute la vie. Dès lors, tout en poussant constamment la sainteté, méfions-nous d'être trop exigeants. Il faut se mettre, dit le père Prévost, à la portée des âmes, des tempéraments, des caractères, du passé, des circonstances, et suivre l'action de la grâce dans chaque âme, sans prétendre uniformiser pour toutes. Alors, on voit, moi, ça me touche ce texte-là, on voit avec quelle délicatesse hein, le père Prévost comprend la direction des âmes. Et soit par les autres, soit par lui-même, il la pratique. Il pratique ce qu'il enseigne. Il sait toucher les âmes. Il sait les saisir, les charmer, les entraîner. À force de, on dirait, de discrétion, de réserve, d'indulgence. À force surtout d'amour, de bonté. C'est que l'épreuve a trituré le père Prévost. Ça lui a appris à se faire tout à tous. A beaucoup aimé tous ceux qui l'ont fait souffrir, à tout pardonner, à prier pour ceux qui lui font du tort. Du fond du cœur, avec une tendresse et une douceur d'âme qui stupéfient. Parmi les différents aspects de cette épreuve, on peut rappeler la défection de sa sœur, qui était entrée chez les sœurs des Oblats de Béthanie, le départ de plusieurs membres de sa famille religieuse, la fraternité sacerdotale, la suspicion jetée sur lui par des prêtres excellents, là, qui le jugeaient trop rapidement ou d'une manière trop administrative. L'opposition que l'on a fait à sa désignation comme postulateur ou vice-postulateur de la cause Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, car c'est lui qui a été nommé au départ pour postuler, pour être le postulateur de la cause de Thérèse Martin, de Thérèse l'Enfant Jésus, au début du 20e siècle. Il a été changé par après. La défiance aussi qu'on lui a manifestée dans l'Église, des personnages très respectables et même haut placés. Et le père Prévost a tout supporté, tout accepté, tout compris dans l'atmosphère surnaturelle et toujours si lumineuse de la foi. Il faut avoir la foi pour passer à travers ça. Sans la foi, toutes les critiques, les injures, les mesquineries, les lettres anonymes, les imbécilités, tout ça se dissout dans le cœur de Jésus. Car il faut prier pour tous ceux qui nous attaquent. Il a toujours aimé ceux qui le blessaient en Jésus, dont le nom était si souvent sur sa plume et sur ses lèvres, parce qu'il le gardait dans son cœur, Jésus. D'où, lorsque l'on conversait avec lui, il y avait une absence complète d'amertume. Il n'y a pas d'amertume chez lui. Il y avait une bienveillance débordante, une inlassable charité, malgré les épreuves, les injures, les mesquineries, les lettres anonymes et tout. Tous ceux qui connaissent le père Prévost éprouvent la même impression. Ils bénéficient de la même grâce apaisante et édifiante, dont se souviennent, parce qu'ils en profitent toujours, ceux qui ont eu l'avantage de vivre, quand bien même ce n'aurait été que quelques jours, dans la compagnie du père Prévost, décédé il y a un peu plus 50 ans, en 1846. Comment lui est venue donc l'idée de fonder? Je vous le rappelle. C'est que pendant 13 ans de ministère auprès des prêtres, le père Eugène Prévost a constaté les besoins spirituels et temporels du clergé. Il a alors cette inspiration de fonder une congrégation religieuse consacrée exclusivement aux prêtres. Et c'est en quittant la congrégation des Pères du Très-Saint-Sacrement en 1900 que le 17 février 1901, il fonde, ou il voit Léon XIII qui approuve la fondation de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale et de la Congrégation des Oblats de Béthanie. Ce sont ces deux familles religieuses consacrées, surtout les Oblats de Béthanie, à l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie, en vue de glorifier le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Sacrement, présence dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie, présence de Jésus, et pour lui au cœur de son œuvre. Et l'apostolat de ces deux congrégations a pour objectif d'aider les prêtres dans leurs besoins spirituels et temporels de toutes sortes. Donc pendant 45 ans, le père Prévost œuvre patiemment dans l'humilité et la souffrance pour implanter son œuvre sacerdotale, et des milliers de prêtres sont l'objet de sa charité. Il meurt le 1er août 1946 à La Beuvrière. C'est une très belle maison qui appartenait à la Fraternité Sacerdotale. J'ignore si elle appartient encore, c'est dans le Maine-et-Loire. Et son tombeau se trouve à la pointe du lac, au Québec. Quand il est mort, on peut dire que la mort plane dans sa chambre, qui est devenu un sanctuaire, et vers 3 heures, un curé du voisinage vient rendre visite au père Prévost qui se meurt. Il en est ému et tout remué. Alors le curé fixe sur ce prêtre un regard si vivant, si chargé d'affection, que le père Prévost en est touché, et c'est réciproque. Le prêtre visiteur voit qu'il y a la fin qui s'approche. Tout est consommé. Auprès du lit, il y a une Madone qui sourit toujours. Plusieurs fois, le jour, le père Prévost, ou le religieux de garde plutôt, devait réciter le chapelet avec le père qui ne pouvait répondre, mais semblait jouir dans son âme. Son corps en éprouvait du soulagement. Son pauvre cœur était hypertrophié. C'est comme si son cœur trouvait plus assez de place pour loger dans sa poitrine. Ça crée une oppression épouvantable, mais ça se calmait en entendant l'Ave Maria, et c'est à cette mélodie qu'il va s'endormir en entendant l'Ave Maria, le Je vous salue Marie. À 5h30, le religieux de garde commence la récitation du rosaire, et le père semble fixé dans une pensée très douce, comme au terme d'un combat. Et puis, à la 5e dizaine du chapelet, son visage tout à coup pâlit et sa respiration baisse rapidement, et la communauté alertée arrive en hâte. Le père Bergeron murmure doucement, c'est son successeur, murmure doucement à l'oreille de celui qu'il aime tellement, le père Prévost, « Jésus, Jésus, Jésus. » Et il perçoit un léger mouvement de lèvres. C'est un ultime et suprême effort du père Prévost pour réaliser le rêve ardent de toute sa vie, expirer en prononçant le saint nom de Jésus. Puis un dernier soupir, très paisible, imperceptible. Une dernière larme à la paupière. Quand ma mère est morte, elle avait ça. La très sainte Vierge est venue cueillir l'âme de son serviteur fidèle. pour la présenter à son fils, son divin fils, Jésus. Dans la mort comme durant la vie, c'était ce qu'il prononçait souvent, « Ad Jesum per Mariam », à Jésus par Marie. À ce moment, c'est curieux, un énorme chêne, octogénaire lui aussi, comme lui, s'est abattu dans le parc et faisant dans sa chute un fracas formidable. On peut y voir un symbole. Un symbole. Alors, le père Eugène Prévost, on peut dire que toute sa spiritualité est fondée sur Jésus prêtre. Prêtre et victime d'amour dans l'Eucharistie, puis dans ses prêtres. Jésus, pour lui, est essentiellement prêtre. Et son sacerdoce, Jésus, est éternel, évidemment. Et sa mission sur la terre est une mission sacerdotale, et alors, en s'incarnant Jésus, il y a 2000 ans, il a été consacré prêtre. Et en lui, le sacerdoce et l'incarnation sont une même réalité. Et voici ce qu'il dit, le père Prévost, à ce sujet. Quand Jésus s'incarne, c'est le prêtre éternel qui apparaît dans le temps. Si Jésus n'avait pas été prêtre, il ne se serait pas incarné, parce qu'il n'aurait pas pu s'immoler, par amour, lui seul pouvant être le prêtre de son propre sacrifice. C'est dans le tome 4 de « Mes retraites avec Jésus », car il faut vous dire que ses œuvres, comme « Mes retraites avec Jésus », c'est en 5 volumes, « Retraite sacerdotale, Jésus et le prêtre », c'est 4 volumes, « Jésus, mieux connu et plus aimé dans son sacerdoce », c'est 6 volumes, etc. C'est extraordinaire. Alors, venu comme prêtre, Jésus a également vécu, on peut dire, toute sa vie comme prêtre. Il a exercé continuellement son sacerdoce, c'est sûr. Et c'est en tant que prêtre que Jésus a parlé et agi. Il est donc prêtre avant tout, et tout repose sur son sacerdoce. C'est la perspective qu'a le père Eugène Prévost. Prêtre, donc, Jésus est inséparablement victime en même temps. Il s'est incarné pour s'immoler par amour. Et c'est de cette façon qu'il opère la rédemption. Et tout en Jésus, écrit-il, porte le cachet du sacrifice, c'est-à-dire de cette offrande amoureuse, et tend à son immolation suprême. Il est allé jusqu'au bout par amour. Le père Prévost dit, s'il n'avait dû mourir, il ne serait pas né. Il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord sur cette question. C'est pas absolument vrai, mais quoique comme homme, il devait mourir. Il n'a pris une vie mortelle que pour pouvoir l'offrir et l'immoler. C'est très beau, ça. Et l'offrande qu'il fait de lui-même culmine donc dans son sacrifice suprême au calvaire. Et Jésus continue d'exercer son sacerdoce et de s'offrir comme victime dans l'Eucharistie. Et l'efficacité de son sacerdoce est perpétuée grâce à l'Eucharistie. Et voici comment le père Prévost s'en explique. Voici un texte de lui. « L'Eucharistie, c'est le prêtre éternel, toujours s'immolant par amour, toujours glorifiant son Père, toujours sanctifiant et glorifiant les âmes. Jésus-Eucharistie, c'est l'amour, crucifié toujours en activité. C'est Jésus nous appliquant sans cesse les mérites de sa passion et de sa mort. » Nous devons à Jésus prêtre l'Eucharistie qui perpétue continuellement en notre faveur son sacerdoce et son immolation rédemptrice. Et l'Eucharistie est le chef-d'œuvre de la puissance et de l'amour. Ça, j'aime cette phrase. Jésus, oui, qui est au, le sacerdoce de Jésus qui est au cœur de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le chef-d'œuvre de la puissance et de l'amour du sacerdoce de Jésus. C'est donc dire que puisque Jésus est prêtre et victime dans l'Eucharistie, une victime pleine d'amour, évidemment, qui s'adresse à un Père plein d'amour, et qu'il s'immole sans cesse, mystiquement, sans pouvoir poser les actes extérieurs de son sacerdoce, eh bien quoi? Il a besoin du prêtre pour le représenter et lui communique son sacerdoce. Il est prêtre et victime dans ses prêtres, on l'oublie trop. Prévost a une vision profonde de ce qu'est le prêtre. Il explique encore dans « Mes retraites avec Jésus », il écrit « Jésus prêtre est tout entier dans le prêtre. Même dignité, même puissance, même efficacité. Je répète, c'est assez étonnant. Même dignité, même puissance, même efficacité. Est-ce qu'on y pense, ça? Le prêtre prête à Jésus les dehors, l'enveloppe. Mais c'est Jésus qui agit, qui anime et qui vivifie. Jésus a fait de son prêtre un autre lui-même. Le prêtre personnifie Jésus, dit le Père Prévost. Alors, participant au sacerdoce de Jésus, le prêtre participe par le fait même à son état de victime et il dit « Prêtre avec Jésus, prêtre ». Les prêtres sont victimes avec Jésus victime. Et c'est dans la souffrance et le sacrifice que le prêtre doit remplir sa mission. Et c'est vrai que les prêtres souffrent beaucoup plus qu'on pense et qu'ils sont sacrifiés beaucoup plus qu'on pense, mais ils ont une joie bien plus grande que celle qu'on pense. Alors, comme conséquence de sa doctrine du sacerdoce de Jésus, le père Eugène Prévost a développé une spiritualité d'imitation de Jésus prêtre et victime dans l'Eucharistie. Et c'est une spiritualité qui, selon ses propres termes, s'inspire essentiellement de l'amour. Oh, ça, il y revient toujours. C'est l'amour et le sacrifice qui ont animé Jésus dans son sacerdoce, dans l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et qui continue de l'animer au Saint-Sacrement. Jésus est tout amour dans le Saint-Sacrement. L'Eucharistie, dit-il, est le grand sacrement de l'amour. Jésus nous nourrit de son corps et de son sang pour nous faire vivre de lui, mais pour que nous ne fassions qu'un avec lui, il faut vraiment aimer. En s'unissant Jésus dans l'Eucharistie, on doit donc se pénétrer de l'esprit du sacerdoce de Jésus, qui est un esprit d'amour et d'immolation. Telle est la spiritualité que le bon père Eugène Prévost, un Québécois, a laissé en héritage à ses fils et à ses filles spirituelles pour qu'ils en soient animés dans leur apostolat auprès des prêtres. Il avait aussi une profonde, je lui signalais un peu, dévotion à Marie. Il s'écriait, oh oui, je le sais bien, vous êtes Marie à ma droite. Voilà pourquoi ma misère ne me submerge jamais. Voilà pourquoi le feu de l'amour ne cesse de me consumer.